Bonjour, c'est François Langlais. Bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angléco.
Bonjour à tous, c'est Catherine Mangin. Chaque semaine, je dialogue avec François sur les mutations, les évolutions qui résultent de la crise du coronavirus afin de mieux comprendre comment l'économie s'adapte au fil de la pandémie. Le gouvernement vient d'annoncer la mise en place de vaccinodromes, par exemple dans les stades, pour accélérer l'immunisation de la population. Comment se situe exactement la France dans cette course mondiale au vaccin, François ?
Selon le site Covid Tracker, c'est un site qui donne les informations les plus pointues sur la question et qui les suit au jour le jour, on voit que la France, aujourd'hui, a administré 12 doses pour 100 habitants. 12 doses, première ou deuxième. À comparer à 112 en Israël, il y a plus que 100 parce que, justement, il y a un certain nombre de citoyens israéliens qui ont reçu déjà 2 doses. 44 au Royaume-Uni, donc quasiment 4 fois plus que la France. 37 aux États-Unis, plus de 3 fois plus que la France. Et puis, il y a d'autres pays dont on parle peu, mais qui ont fait bien mieux que nous aussi. Les Émirats Arabes Unis, le Chili, Bahreïn, en Europe, la Serbie, la Hongrie, tout près de l'Europe, mais non pas en Europe, le Maroc, la Turquie, tous ces pays-là sont en avance significative par rapport à la France. Au sein même de l'Europe des 27, la France se situe dans les grands pays derrière l'Italie qui est en tête et l'Allemagne, qui sont toutes les deux plus avancées que nous. De façon modérée, hein. On est quand même dans un mouchoir de poche, mais la France n'est quand même qu'en troisième position. Et quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on voit que les situations sont très disparates d'un État à l'autre. En Alaska, par exemple, plus de 30% de la population est déjà vaccinée. Et dans d'autres États, c'est beaucoup plus en retard. Ce qui est frappant, en tout cas, c'est que plusieurs États américains viennent d'annoncer ces jours derniers que tous les adultes de leur territoire étaient désormais éligibles à la vaccination. Autrement dit, à partir de 18 ans, vous pouvez vous présenter dans l'un des centres de vaccination disponibles et vous aurez votre dose. En France, rappelons qu'aujourd'hui même, on vient d'élargir aux plus de 70 ans, hein, qui n'ont pas de comorbidité, c'est-à-dire toute la population des septuagénaires est désormais éligible, mais ça date de quelques heures. Et vous voyez que sur ce critère-là aussi, nous sommes assez loin des meilleurs de la classe.
Mais alors comment est-ce qu'on peut expliquer ces différences absolument notables, même entre grands et petits pays ? Il y a des petits pays qui font finalement très, très bien dans cette histoire-là.
C'est vrai. En fait, quand on regarde Israël, les gens vous disent « Ah ben oui, mais c'est un petit pays, c'est plus facile ». C'est pas vrai, parce qu'un petit pays, il a moins de moyens. Puis après, on parle des États-Unis. « Ah oui, mais c'est un grand pays, il a plus de moyens ». Ben oui, enfin, il y a aussi plus de citoyens à vacciner. Donc, au total, toute proportion gardée, le meilleur critère, c'est justement celui qu'on donnait à l'instant. C'est le nombre de doses par centaine d'habitants. Ça neutralise les différences de taille. Ces différences, elles s'expliquent à toutes les étapes du processus. D'abord, bien sûr, la conception du vaccin lui-même. Rappelons-le, ce sont les États-Unis qui ont été déterminants avec notamment l'opération Warp Speed qui était justement destinée d'abord à créer un vaccin et à l'industrialiser et qui a été dotée par le pouvoir fédéral, c'était à l'époque de la présidence de Trump, de près de 10 milliards de dollars qui ont été distribués aux projets les plus prometteurs. Bien sûr, à l'époque, le gouvernement a accordé un financement en contrepartie d'avoir un accès privilégié à la distribution. Il s'est produit à peu près la même chose au Royaume-Uni avec le vaccin AstraZeneca Oxford, hein, qui lui aussi a bénéficié de soutien public très important de la part du gouvernement britannique, à la contrepartie que le Royaume-Uni serait prioritaire. À l'époque, en Europe, rien. Rien du tout, au point que, comme on le sait, une start-up française, Valneva, de Nantes, a dû aller se faire financer par les Britanniques, hein, et qu'elle n'a pas trouvé le carburant nécessaire ni en Europe ni en France. Mais les plus grosses différences, au fond, elles arrivent après, au moment de la phase d'achat. Mettons à part le cas des États-Unis, justement parce qu'il avait pris une avance très significative dans le financement, qui lui donnait un levier considérable sur les laboratoires, notamment sur Pfizer, qui est américain, aussi sur Moderna, qui est une société de Boston, donc américaine. Mettons à part les États-Unis, donc, et concentrons-nous sur les deux pays desquels on peut s'inspirer, c'est le Royaume-Uni et Israël. Le Royaume-Uni, c'est spectaculaire. Dès le printemps 2020, Boris Johnson, tout nouveau Premier ministre, contacte une personnalité en dehors de la fonction publique qui s'appelle Kate Bingham, qui est une femme qui a 55 ans, qui est ce qu'on appelle une capital risqueur. Autrement dit, elle prend l'argent des épargnants un peu fortunés et elle investit sur les startups de biotechnologie. Autant dire que elle connaît la mécanique du financement, elle connaît le secteur, elle connaît les acteurs. Dès avril, elle est contactée, Boris Johnson lui propose ce job, pro bono, hein, elle n'était pas payée. Elle accepte avec plusieurs conditions. D'abord, la liberté d'embaucher qui elle veut, de dépenser autant qu'elle veut ou quasiment. Et parmi ces dépenses, d'ailleurs, il y en a certaines qui ont fait polémique, notamment 670 000 livres, ça fait plus de 700 000 euros, qui ont été utilisés pour la communication justement de cette équipe chargée d'approvisionner le Royaume-Uni en vaccins. Mais malgré tout, Madame Bingham réussit à monter un réseau et grâce à ses excellents contacts avec toute la filière, elle s'assure de l'approvisionnement justement régulier à partir du moment où le vaccin sera produit. Elle paye cher, hein, ça c'est certain. En moyenne, il y a un rapport qui vient d'être publié au Royaume-Uni, c'est 10 livres la dose, c'est-à-dire 11 euros, hein, c'est beaucoup plus que ce que nous avons payé, nous, Européens. Et puis, elle accepte de décharger les laboratoires de la responsabilité des éventuels effets secondaires. Autrement dit, si demain on se rendait compte que tel ou tel vaccin provoquait des pathologies graves, eh bien, ça serait le gouvernement britannique qui assumerait financièrement le dédommagement des victimes et éventuellement les conséquences juridiques de tout cela. Parallèlement, cette task force britannique a dû constituer un fichier de 450 000 personnes, des volontaires, pour les tests à grande échelle des produits vaccinaux, de façon justement à terminer toutes les expérimentations qui se succèdent en phases distinctes. Ça a été un travail considérable d'identifier autant de volontaires. Et puis, on a pris des risques, notamment en décidant qu'on allait espacer les doses. Normalement, il ne faut que quelques semaines entre la première et la seconde des doses pour arriver à l'immunité. Les Britanniques ont dit, comme c'est la pénurie, nous, on va plutôt compter 4 mois de façon à donner au moins un début d'immunité à un maximum de personnes. Et tout ça, bien sûr, avec un circuit court dans la décision. Ça n'avait rien à voir avec les procédures habituelles de la fonction publique britannique. Et d'ailleurs, la responsable, au moment où elle a accepté cette tâche, elle a dit au Premier ministre, d'accord, je veux bien prendre en charge la mise en place de cette task force, mais pas si c'est pour envoyer 58 copies à chaque fois que je fais un mail. En Israël, un petit peu la même chose, hein, si ce n'est que ça a été traité à encore plus haut niveau, 17 conversations téléphoniques entre le Premier ministre lui-même, le ministre de la Santé et les responsables des laboratoires pharmaceutiques, parce que c'est un petit pays, 9 millions d'habitants, et il craint de se faire dépasser par les grosses commandes et du coup de n'être servi qu'en deuxième ou en troisième position. Là aussi, Israël accepte de payer beaucoup, mais surtout, Israël a un argument en quelque sorte compétitif, c'est que le pays accepte de diffuser gratuitement toutes les données épidémiologiques des Israéliens qui auront été vaccinés. Vous savez qu'il y a en Israël un système de santé assez sophistiqué avec des caisses d'assurance maladie qui sont en concurrence les unes avec les autres, mais qui sont quasiment toutes informatisées à haut niveau. Donc ça a permis le transfert de ces données sans difficulté et ça a été un argument très important pour convaincre les laboratoires que Israël devait être servi parmi les premiers. Dans les deux cas, donc Israël et Royaume-Uni, on voit qu'on a pris des risques dans tous les domaines, financiers, des risques même pour la santé, hein, au fond, en se disant, bah, finalement, le coût de la maladie est tel, à la fois avec les morts qu'elle occasionne et puis les dégâts que ça provoque sur l'économie avec le confinement. Du coup, pour vous donner un ordre de grandeur, le Royaume-Uni commande 357 millions de doses. Normalement, c'est une population de 70 millions de personnes, il avait besoin au mieux, au plus de 140 millions de doses, il en a commandé 2,5 fois plus, parce qu'au départ, lorsqu'il a pris ses décisions, il ne savait pas très bien quand allaient arriver les vaccins, et du coup, il a préféré assurer au total 10 milliards de livres sterling, c'est-à-dire 11 milliards d'euros, un peu plus de 11 milliards d'euros ont été dépensés rien que pour l'approvisionnement en vaccins et leur distribution. Ajoutez à ça, bien sûr, des procédures d'homologation accélérées, hein, dès début décembre, le premier vaccin est approuvé par l'autorité de la pharmacie britannique, alors que l'Europe n'est même pas encore réunie. C'est ça qui frappe, au fond, c'est la différence de timing. L'Europe se réveille tard, d'abord parce que c'est compliqué de décider à 27, et puis surtout, la task force qui se met en place à Bruxelles est obsédée par le prix qu'elle va payer, par la responsabilité qu'elle pourrait subir. Donc, le paradoxe, c'est que l'un des premiers marchés du monde en termes pharmaceutiques, le marché unique européen, sera servi l'un des derniers. Il y a de bonnes raisons à ça. C'est vrai que c'était probablement plus logique de mutualiser, là aussi, pour éviter l'effet de file d'attente pour les petits pays. Mais il y a aussi des mauvaises raisons, comme on s'en est rendu compte, lors d'un coup de gueule poussé par les Allemands au moment des fêtes, parce que la haute autorité chargée d'approuver les vaccins avaient prévu de se réunir tranquillement après le réveillon. Les Allemands disent, mais attendez, c'est pas possible. Voilà, il y a quand même des milliers de morts chaque jour. Ça vaut le coup de manger un peu sur le réveillon.
Juste une petite question, François. Ça veut dire que Israël et la Grande-Bretagne ignorent le principe de précaution qui, chez nous, est un élément majeur de détermination de la politique.
Oui, très largement. Alors, je ne dis pas qu'ils ont été complètement imprudents, mais en tout cas, ce fameux principe de précaution n'a pas joué autant que chez nous. On le voit durant toutes les opérations qu'on vient de décrire, mais aussi aujourd'hui, où AstraZeneca a fait l'objet de procédures de suspension au premier d'août. Ça n'a jamais été le cas au Royaume-Uni. Et justement, Kate Bingham s'est exprimée récemment là-dessus, en parlant de l'attitude de la France notamment, de l'Allemagne, et en disant qu'elle considérait qu'il était complètement irresponsable qu'un gouvernement d'un pays de la taille de la France ou de l'Allemagne prenne la décision publique de suspendre le vaccin pour des motifs qui n'étaient pas encore avérés. Elle disait, il y a de quoi vraiment dissuader les citoyens d'y aller, et de ce point de vue, leur responsabilité est grande.
Alors, pour distribuer et administrer le vaccin, on a le sentiment que les autres pays ont également été tous plus vite que nous, en fait.
Ah, c'est spectaculaire. Dans la plupart des pays qui ont été vite, on a tout de suite déployé des sites géants comme ceux qu'on veut mettre en place nous aujourd'hui, après 3 mois de réflexion, les fameux vaccinodromes. On a aussi mobilisé l'armée, bien souvent, et là, quelquefois jusque même au cœur de l'Europe. Mario Draghi, le nouveau président du Conseil italien, a nommé un général en charge de la task force, justement parce qu'on se dit, l'armée, la logistique, elle connaît. Au Royaume-Uni, au total, il y a près de 2000 centres de vaccination. On a même utilisé des cathédrales. Donc, c'est dire l'ampleur de la mobilisation. Aux États-Unis, on a missionné 6000 militaires et on a installé des centres fédéraux géants. 20 000 pharmacies ont également été mobilisées, notamment les pharmacies qui se trouvent dans les supermarchés ou dans les malls. Et puis les sociétés privées logistiques qui ont joué leur part pour l'acheminement du vaccin. Le point clé, c'est bien sûr la logistique, c'est-à-dire justement la diffusion de ce produit avec les conditions parfois difficiles qu'il demande, notamment des températures extrêmement froides pour l'un des produits à moins 70 degrés. On voit d'ailleurs que en France et en Allemagne, c'est là-dessus qu'on bute. Il y a en Allemagne plus de 2 millions de doses qui sont inutilisés, c'est considérable, et en France plus d'un million, principalement des AstraZeneca. Alors c'est en partie dû justement à la suspension dont on parlait à l'instant. En fait, il y a 3 points clés dans une opération vaccinale: système d'information pour identifier les populations prioritaires et les contacter tout de suite, la distribution des doses bien sûr, justement jusque dans les centres de vaccination les plus reculés, et puis l'information des citoyens, c'est-à-dire la campagne de public relations, de façon à vanter les bénéfices du vaccin.
Alors sur ce point, est-ce que l'opinion publique européenne n'est pas plus rétive que d'autres opinions ? Est-ce que ça n'explique pas aussi les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui sur le vieux continent ?
Si, en France notamment, c'est très frappant. Souvenez-vous des propos d'Olivier Véran lorsqu'il s'exprime pour la première fois sur l'opération vaccinale. Et il dit, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Autrement dit, on ne va pas aller trop vite. En réalité, à l'époque, il parle d'abord aux antivax, c'est-à-dire justement à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner parce qu'ils redoutent des effets secondaires. Erreur politique qui sera corrigée quelques semaines plus tard, devant le tollé que ça suscite, et devant finalement les critiques à peu près unanimes devant ce début de politique très précautionneuse de la France. Bon, on n'a pas vu ça que en France, mais en France notamment, il y a aussi toute la question des soignants eux-mêmes. En Europe et en France, 30% des soignants seulement vaccinés chez nous, c'est pas beaucoup. Alors, j'observais quand même que le problème se pose aussi au Royaume-Uni dans des proportions symétriquement inverses, c'est-à-dire il y a 30% de soignants qui ne sont pas vaccinés. Et du coup, le gouvernement envisage de rendre obligatoire la vaccination pour tout le personnel qui travaille dans les EHPAD. On en est par là en France, on l'a évoqué, mais ça a été aussi vite torpillé, et on imagine mal que ça puisse se faire. Mais on voit que là aussi, le Royaume-Uni est moins précautionneux. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est bien symptomatique de notre époque. Là aussi, je regardais ce qui s'était passé dans les campagnes de vaccination il y a 30, 40, 50 ans. C'était beaucoup plus facile. Et dans les années 50, il y a une gigantesque campagne contre la polio. Des dizaines de millions de personnes sont vaccinées. Personne ne conteste. Et Elvis Presley fait la promo du vaccin en montrant son épaule. Et on considère évidemment que c'est pour le bien commun. On envisage pas, quasiment pas, les effets secondaires. En ex-Yougoslavie, même chose. Une épidémie dans les années 70 se déclenche. En 3 semaines, 18 millions de personnes sur les 20 millions d'habitants du pays sont vaccinées. Donc à l'époque, on n'avait probablement pas tous les moyens technologiques justement pour gérer les fichiers, etc. Mais bon, alors c'était un régime autoritaire, hein, c'était quand même le bloc de l'Est. Mais quand même, à l'époque, on vaccinait dur. Il y avait un autre facteur qui est souligné par les experts, c'est qu'à l'époque, la coopération internationale, même du temps de la guerre froide, entre la Chine, l'URSS et les États-Unis étaient excellentes. Sur la polio, par exemple, l'un des trois grands approuvait un vaccin, aussitôt les deux autres l'utilisaient. On échangeait les informations et on considérait que là, c'était une cause qui échappait à la rivalité géopolitique entre grandes puissances. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. On voit le nationalisme vaccinal qui se développe avec des interdictions d'exportation un peu partout et notamment en Europe. Il n'y a pas longtemps, Mario Draghi, donc le premier ministre italien, a bloqué des livraisons en dehors de l'Europe. Il y a 53 usines chez nous et on sent bien que la pression monte pour empêcher ces usines de livrer des vaccins dans des pays extérieurs à l'Union, même s'il y a eu des commandes en bonne et due forme et à l'heure. J'ajoute, dernier point, que l'OMS, qui est censée gérer au plan multilatéral tout cela, a quand même été largement décrédibilisée par l'épidémie. D'abord par sa proximité avec la Chine. On se souvient de la difficulté qu'elle a eue à reconnaître qu'il s'agissait véritablement d'une épidémie, puis d'une pandémie. Et ensuite, par ses recommandations complètement saugrenues sur le masque, etc. On a l'impression que cette organisation a été poussée par le vent. Donc il n'y a plus d'autorité supranationale qui dise le bien. C'est un facteur de plus dans la brume et l'atmosphère conflictuelle d'aujourd'hui.
Alors ce nationalisme vaccinal trouve aussi racine dans le fait qu'il y a une pénurie de produits. Est-ce qu'on a un espoir aujourd'hui de la voir se dissiper ? Est-ce qu'on va voir aussi arriver le vaccin russe bientôt chez nous ? Ou bien même, pourquoi pas, le vaccin chinois ? Après tout, il existe aussi. Est-ce que tout ça, c'est envisageable ?
Écoutez, rien n'est moins sûr. Quand on lit les propos du plus grand fabricant de vaccins au monde, qui est indien, bon, on se dit, il connaît quand même son affaire. Lui dit, on va être en pénurie jusqu'en 2024, c'est-à-dire encore 3 ans, compte tenu de l'importance de la demande. Et le responsable d'une très grande firme de logistique suisse qui s'appelle Kuhn & Nagel estimait récemment que dans les pays riches, donc ceux qui ont a priori le plus de moyens, un adulte sur deux devrait patienter encore jusqu'à 15 mois, c'est-à-dire jusqu'à l'été 2022 pour être vacciné. Donc c'est dire l'état des tensions. Le vaccin russe, Thierry Breton, le commissaire au marché unique qui est chargé de l'approvisionnement en vaccins de l'Europe, me disait il y a 2 jours que en fait les Russes étaient incapables de le produire à grande échelle et qu'ils cherchaient désespérément des unités de production ou des partenaires et qu'ils n'en trouvaient pas jusqu'ici, même si on l'a vu hein, tout récemment après les colibets qui lui ont été adressés, ce vaccin a quand même conquis une partie des scientifiques puisqu'il a fait l'objet de publications qui ont attesté que son efficacité était assez bonne. Pour autant, il semble que au plan scientifique, c'est une réussite. Au plan industriel, on n'y est pas encore. Il est en cours d'examen par les autorités européennes, donc peut-être arrivera-t-il quand même. Pour la Chine, il n'y a jusqu'ici pas d'examen par justement l'autorité européenne, parce que ça n'empêche pas certains pays comme la Serbie de l'avoir adopté sur une base bilatérale. Oui, parce que on ne le sait pas, mais en réalité, même dans le schéma collectif d'approvisionnement de l'Europe, il y a la possibilité pour les pays membres de s'affranchir, au moins partiellement, et de commander eux-mêmes en direct à d'autres fabricants s'ils estiment que c'est nécessaire. C'est ce qu'ont choisi de faire un certain nombre de pays, plutôt en Europe de l'Est, à la Serbie notamment.
Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes préférées.